Merci d'écouter RFI, il est 21h à Paris, 22h à Khartoum.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous.
Dans ce journal, le Soudan, le pays, a vécu aujourd'hui sa journée la plus meurtrière depuis le coup d'État du 25 octobre. Au moins 14 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations anti-putsch. Claire Fage du service Afrique de RFI sera en direct avec nous dans un instant.
Et puis en Espagne, 8 évêques veulent en finir avec la loi du silence. Ils demandent à l'Église catholique d'enquêter sur la pédocriminalité, mais l'institution religieuse refuse toujours de reconnaître le phénomène.
On parlera également de politique. L'Association des maires de France a un nouveau président. Il s'agit de David Linard, maire Les Républicains de Cannes. Une figure plutôt critique à l'égard du président Emmanuel Macron.
Et puis cette bonne nouvelle, Clémentine, une Argentine malade du sida a été déclarée guérie. Elle n'a pourtant reçu aucun traitement.
Le journal, en français facile.
Le Soudan, qui a donc vécu une journée particulièrement violente et meurtrière aujourd'hui.
Oui, au moins 14 personnes, je vous le disais, sont mortes. Les forces de sécurité soudanaises ont tiré à balles réelles sur des Soudanais qui manifestaient contre le coup d'État militaire du 25 octobre dernier. Bonsoir Claire Fage.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. C'est donc la journée la plus meurtrière au Soudan depuis ce putsch.
Oui, 14 morts, dont 7 abattus dans la seule banlieue nord de Khartoum. C'est le triste bilan avancé par un syndicat de médecins pro-démocratie. Les forces de sécurité, vous le disiez, ont tiré à balles réelles, selon les témoins. Elles visaient la tête, le cou ou le torse, c'est-à-dire le haut du corps. C'est pourquoi les représentants des manifestants parlent de meurtres prémédités, des meurtres préparés à l'avance. Les Soudanais étaient moins nombreux ce mercredi à descendre dans la rue que lors des deux dernières manifestations, car les communications et Internet ont été coupées par les autorités, mais ils étaient encore des milliers à réclamer le retour à un pouvoir civil. Et à l'heure où nous parlons, il y a encore des barricades dans les rues de la capitale. Mais le général Fatah al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise qui a pris le pouvoir il y a un mois et qui a mis le premier ministre Hamdok en résidence surveillée, ne semble pas envisager de retour en arrière, malgré les nombreux appels de l'administration américaine. La répression des manifestants au Soudan a fait plus de 34 morts, dont 3 adolescents, depuis le putsch du 25 octobre.
Merci beaucoup Claire Fage, journaliste au service Afrique de RFI.
L'Union européenne et la Biélorussie vont entamer des négociations.
Des discussions pour tenter de résoudre la crise migratoire qui se joue aux portes de l'UE, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ces négociations ont été annoncées après un nouvel entretien téléphonique entre le président biélorusse Alexandre Loukachenko et la chancelière allemande sortante Angela Merkel. C'était la deuxième fois en 3 jours que les deux responsables politiques se parlaient au téléphone. Sur le terrain, plusieurs milliers de migrants sont toujours bloqués, obligés de camper dans des températures glaciales et dans des conditions très difficiles.
En Espagne, de hauts responsables de l'Église catholique dénoncent le tabou, c'est-à-dire l'interdit qui entoure la pédocriminalité.
Ils sont plusieurs à vouloir en finir avec l'omerta. L'omerta, c'est la loi du silence. Cette rébellion au sein de l'Église espagnole intervient au moment où plusieurs églises européennes s'emparent de ce sujet brûlant. C'est le cas par exemple en Allemagne, au Portugal ou encore en France, où une commission a eu la mission d'enquêter sur ces crimes sexuels. Elle a comptabilisé au moins 330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église de France depuis 1950. Mais en Espagne, la conférence épiscopale refuse de reconnaître le phénomène. Elle refuse aussi d'enquêter et elle n'accepte les plaintes qu'au cas par cas. À Madrid, François Musso.
Faire une analyse d'experts indépendants afin d'enquêter et de savoir quelle a été et quelle est l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église d'Espagne, c'est l'exigence de 8 évêques exaspérés par le silence de l'épiscopat. Et d'autant plus exaspérés après un récent rapport en France faisant état de 300 000 victimes. Ici, les autorités ecclésiastiques refusent qu'on s'y intéresse, affirment que les cas sont rares, sans apporter aucune précision, et incitent les 70 évêchés à ne pas collaborer dans cette direction. À en croire le quotidien El País, qui mène depuis des années sa propre enquête sur ce fléau, la raison de cette omerta serait une question d'argent. L'épiscopat espagnol aurait peur de devoir verser des sommes astronomiques. Selon le même journal El País, l'Église aurait déjà indemnisé en secret 173 victimes, un total de 2 millions d'euros. À titre de comparaison, l'Église allemande a déboursé 45 millions d'euros. Il n'est pas sûr que le silence de l'épiscopat espagnol puisse durer éternellement. Outre les pressions des 8 évêques, il y a aussi celles en provenance du Vatican. François Musso, Madrid, RFI.
Et en France, l'ancien prêtre Bernard Prénat, 76 ans, a été arrêté aujourd'hui. Il avait été condamné à 5 ans de prison en 2020 pour des agressions sexuelles sur mineurs commises entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon. Bernard Prénat avait jusque-là évité l'incarcération pour des raisons de santé.
Sur le terrain politique, les maires de France ont un nouveau président.
Et c'est David Linard, actuel maire Les Républicains de Cannes, qui reprend la tête de l'influente Association des maires de France. Il succède à François Baroin. David Linard s'est imposé avec 62% des suffrages face à Philippe Laurent, le maire centriste de Sceaux. Le nouveau président de l'Association des maires de France incarne une ligne politique intransigeante, critique vis-à-vis du président Emmanuel Macron. On écoute tout de suite David Linard.
Mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Les maires ont choisi une AMF de combat, déplore-t-on dans le camp du perdant Philippe Laurent. Le centriste défendait une posture de dialogue avec l'exécutif. Vainqueur, le maire de Cannes, David Lisnard, permet à LR et à son numéro 2 socialiste de garder le pouvoir au sein du lobby des maires. Et il compte poursuivre sur la ligne de son prédécesseur qui avait fait de l'AMF un grand opposant au président.
La ligne qui a été choisie est une ligne claire, c'est la ligne de l'indépendance de l'AMF.
Après avoir supprimé la taxe d'habitation qu'encaissaient les communes et après des déclarations peu appréciées en début de mandat, le chef de l'État a fait des efforts, reconnaît le nouveau président de l'AMF.
Les discours sont beaucoup plus flatteurs à l'égard des maires. Nous avons vu que les maires, comme les préfets, apprenaient a posteriori un certain nombre de décisions, y compris pendant la crise Covid, donc ce qui nuance un peu ces discours. Je crois que le rôle de l'AMF, c'est d'être vigilante.
Les maires, en première ligne pendant le mouvement social des Gilets jaunes et durant la crise sanitaire, veulent être reconnus et avoir les moyens d'agir. Quant au nouveau patron de leur association, même s'il a promis d'être neutre jusqu'à l'élection présidentielle, il entend bien peser dans les débats nationaux à venir.
Voilà des explications signées Lucille Gimbert et à noter que le président français Emmanuel Macron sera l'invité demain du Congrès des maires.
Emmanuel Macron qui a reçu aujourd'hui l'ancien président du Brésil, Lula.
L'ancien dirigeant brésilien a été accueilli au palais de l'Élysée. L'entretien a porté sur les derniers développements de la scène internationale, précise la présidence française. À noter que Lula est considéré comme probable candidat à la présidentielle d'octobre 2022 au Brésil. Il est d'ailleurs donné grand favori contre l'actuel président Jair Bolsonaro.
Dans l'actualité également, Clémentine, cette bonne nouvelle, une patiente atteinte du sida vient d'être déclarée guérie.
Il s'agit d'une Argentine, elle avait été diagnostiquée séropositive au VIH en 2013. Elle a réussi à guérir sans traitement, c'est la deuxième fois que ça arrive dans le monde, les précisions d'Aram Beng.
La jeune femme de 30 ans a été suivie depuis 2017 par une équipe internationale de chercheurs. Après son accouchement en 2020, les scientifiques ont passé à la loupe son placenta. Conclusion, plus aucune trace du virus du sida n'est détectée. C'est donc la deuxième fois qu'une guérison du sida sans aucun traitement antirétroviral a lieu dans le monde. Le tout premier cas est observé également en 2020 chez une sexagénaire de San Francisco aux États-Unis. Ces deux guérisons naturelles donnent de l'espoir aux scientifiques qui font des recherches depuis des années pour trouver un traitement contre le VIH-sida. Pour l'instant, les chercheurs qui suivent la patiente argentine essaient de comprendre les mécanismes ayant entraîné sa guérison afin d'en reproduire les principes thérapeutiques.
Explication signée Aram Beng. Et en France, une place va être dédiée aux combattants et combattantes du sida. Le Conseil de Paris a voté cette initiative à l'unanimité aujourd'hui. Très belle soirée sur RFI.
7 milliards de voix.